Nous sommes un peuple fier.
L'indépendance est un fait acquis.
Nous n'avons pas l'âme d'esclave.
Des peuples entiers ont été vidés de leur culture.
Décolonisation dans le sourire.
Laissez entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire.
Décolonisation.
S'accélère la ronde des révoltes et des indépendances africaines.
Vous connaissez la dernière chanson à la mode ?
Indépendance, tcha-tcha, nos ouvriers, Bonipaza, tcha-tcha, Boubakini.
Pierre Aski.
Pour comprendre le présent, plongeons-nous dans le passé. France Inter vous invite à découvrir ou redécouvrir les personnages d'historique qui ont marqué un certain nombre de pays africains. Aujourd'hui, Garta ou François Tombalbaye, premier président du Tchad indépendant.
Sur France Inter.
Tous les Tchadiens, où qu'ils se trouvent, doivent s'unir pour donner au Tchad une place qui lui revient dans le monde nouveau.
Pour nous accompagner dans ce voyage dans le temps et dans l'espace, Roland Marshall, spécialiste des conflits en Afrique, rattaché à Sciences Po. 27 septembre 1975. Le visage d'une femme apparaît aux 20h de TF1. Françoise Clostre, otage française. Le reporter Raymond Depardon est allé l'interviewer dans les maquis du Tibesti. C'est une région montagneuse et aride dans le nord-ouest du Tchad. La voix désespérée, mais aussi accusatrice de l'archéologue, prisonnière du désert, oubliée de tous, vient hanter les téléspectateurs et surtout le gouvernement français qu'elle semble viser.
J'essaie de pas trop penser à ma famille, bien sûr, le visage de mon mari, celui de ma mère, parce que ça me fait trop mal. Et sinon, je pense à tous ceux qui m'abandonnent. Ils sont nombreux.
Dans ces années-là, le nom de Françoise Clostre, l'affaire Clostre, comme on disait, domine l'actualité. Elle reste près de 3 ans entre les mains des rebelles tchadiens. Des rebelles qui entreront dans l'histoire, les futurs présidents Koukouni Wedey et Hissène Habré. Lors de sa captivité, le président du Tchad, Garta Tombalbaye, est assassiné par ses propres soldats. L'affaire Clostre est un moment de bascule pour le Tchad, mais aussi pour la France. Liée au Tchad par des accords militaires, elle est prise dans un piège en grande partie de son propre fait. Le Tchad occupe une place à part dans l'imaginaire colonial et militaire français. C'est le premier territoire à se rallier au général de Gaulle en 1940.
La courageuse décision prise.
Écoutez-le sur Radio Londres,
par le territoire du Tchad,
le 27 août 1940.
Comblera de joie et de fierté tous les Français. Certains Français, aveuglés par le désespoir, ont pu oublier 2000 ans d'histoire et penser que la voie du salut était la soumission à Hitler et à Mussolini. Mais la France écrasée, humiliée, livrée, commence à remonter la pente de l'abîme. Les Français du Tchad viennent d'en donner la preuve. Spontanément, ces hommes droits, ces hommes saints, ces hommes braves reprennent leurs armes et vont au combat. J'ai des raisons de penser que leur exemple sera suivi.
1942, la colonne du général Leclerc se met en marche dans un décor de carte postale. Elle traverse la palmeraie de Faya Larjo, dans le désert du nord du Tchad. Direction la Libye. Là, elle attaque l'armée italienne à Koufra. Leclerc donne à la France libre sa première victoire.
N'Djamena, la capitale du Tchad, est à 5000 km de Paris. Le Tchad est l'un des pays les plus pauvres et les plus déshérités du monde.
Le Tchad est un vaste pays, grand comme 2,5 fois la France, charnière entre l'Afrique du désert et celle de la savane. Cet État africain, bien que fidèle parmi les fidèles à la France, a pourtant connu le plus grand nombre d'interventions militaires françaises depuis son accession à l'indépendance en 1960. Aujourd'hui encore, des troupes et des avions français y sont stationnés, plaque tournante de la guerre contre les djihadistes au Sahel. En 1960, l'homme fort s'appelle François Tombalbaï. Il changera plus tard son prénom en Ngarta, ce qui signifie « vrai chef » en langue sara. 1960 voit se succéder les indépendances à un rythme effréné sur le continent.
On voici au seuil de l'indépendance.
Le 11 août, c'est le tour du Tchad. Tandis que retentissent les coups de canon qui annoncent l'ère nouvelle, Tombalbaï célèbre aussi la France et le général de Gaulle.
Dans quelques minutes, notre peuple aura gagné le droit de disposer de lui-même, le droit de choisir lui-même sa propre voie, le droit de figurer parmi les concerts des nations, égal en dignité aux plus grandes. Tchadiens, crions notre joie. Il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain.
André Malraux, le ministre de la Culture qui représente la France à la cérémonie d'indépendance, n'est pas moins lyrique et optimiste en lisant le message qu'adresse au Tchad le général de Gaulle.
Le Tchad entre dans le concert des nations. Aux jours héroïques, il n'a pas fait défaut à la France. Il peut être assuré aujourd'hui que la France ne lui fera pas défaut. De tout cœur, la France souhaite que le Tchad ait pour avenir le bonheur et la liberté. Vive le Tchad, vive la France, Charles de Gaulle.
Le président François Tombalbaï est un enfant de la colonisation. Il naît en 1918 à Bessada, une commune du sud du Tchad. Terre de savane, fertile et plus peuplée, le sud est majoritairement chrétien et animiste, contrairement au désertique nord du pays, presque exclusivement musulman. François Tombalbaï est un chrétien protestant et il devient instituteur. Son engagement en politique se fait au sein du Rassemblement démocratique africain, le grand parti de l'Empire français. Nous avons évoqué ce mouvement dans les autres épisodes de décolonisation. Il fut lancé sous l'égide de l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny et de quelques autres leaders politiques. Le RDA est initialement affilié au Parti communiste français. Le Tchad adhère à ce grand mouvement, mais reste modéré. La section tchadienne n'appartient assurément pas à l'aile révolutionnaire de ce parti. Le Tchad n'est pas à l'avant-garde des revendications indépendantistes. Dans ce contexte, François Tombalbaï s'affirme. Il s'impose comme l'une des personnalités tchadiennes qui compte. En 1959, le projet du général de Gaulle de communauté franco-africaine entre en vigueur. François Tombalbaï se retrouve à la présidence du Conseil des ministres, le gouvernement autonome local, antichambre du pouvoir absolu. Or, l'homme fort du Tchad à cette époque n'est pas François Tombalbaï, c'est Gabriel Lisette, antillais, administrateur colonial en Afrique équatoriale française. Lisette s'engage en politique, convaincu du droit des peuples à décider de leur destin. Il fonde le Parti progressiste tchadien et se fait élire à 27 ans député du Tchad. En 1958, il est président du gouvernement autonome local. Le pays accède à l'indépendance en 1960. Lisette est toujours le leader du principal parti, mais c'est Tombalbaï, le fils du pays, qui accède à la présidence. Deux dirigeants, c'est un de trop, et Tombalbaï passe très vite à l'action. 15 jours seulement après la cérémonie d'indépendance, Gabriel Lisette se rend en Israël. Il vient participer au nom du Tchad à une conférence internationale. Pendant ce temps-là, intrépide, François Tombalbaï profite de son absence. Il lui retire la nationalité tchadienne, lui interdit de revenir et fait arrêter ses proches. Mais avant de passer à l'action, Nathan Balbaï a consulté Paris. Il veut être certain que son geste ne sera pas une source de tension avec la France. Il est visiblement rassuré. Dans un livre d'entretien publié sur ses vieux jours, Jacques Foccart, le puissant monsieur Afrique du général de Gaulle, confie de manière lapidaire.
Gabriel Lisette, antillais et citoyen français, peut difficilement passer pour représentatif des Bantous d'Afrique centrale.
Et il apparaît comme un homme d'Oufouet de Boigny, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Pas d'état d'âme donc. Exit Gabriel Lisette, Nathan Balbaï est seul maître à bord. L'éviction de Gabriel Lisette marque le début d'une poussée autoritaire du nouveau président. Il oblige carrément les autres partis politiques du pays à fusionner avec le sien. En 1962, un régime de parti unique est instauré, à l'image, il est vrai, de ses voisins africains. La constitution démocratique des débuts est détournée au profit du pouvoir d'un seul homme. Nous sommes avec Roland Marchal de Sciences Po. Pourquoi Nathan Balbaï ? Quels sont les facteurs qui expliquent son ascension jusqu'au sommet ?
On peut trouver d'abord qu'il est assez caractéristique de l'élite politique autochtone. Il est instituteur, il est membre fondateur de ce parti progressiste tchadien qui va mener quand même la lutte, ou, disons très modérée, mais quand même, qui va mener le pays à l'indépendance. Il est également, on y reviendra sans doute dans la suite, originaire de ce qu'on appelait à l'époque le Tchad utile, c'est-à-dire ce sud du Tchad. Il est membre d'un des plus grands groupes ethniques de ce pays, les Sara, qui est en fait une constellation, une confédération de différents groupes. Et en ce sens-là, il est déjà porteur, il est bien élu. Gabriel Lisette l'est un peu moins. Et il est très bien élu. Et puis, il gravit les différentes échelons de responsabilité, d'abord locale et puis ensuite nationale. D'une certaine façon, il est extrêmement fidèle, comme on l'entend dans l'entretien avec au général de Gaulle, à la France. C'est un très bon candidat et c'est pour ça qu'il est retenu.
L'éviction de Gabriel Lisette est le premier acte politique du président du Tchad. Quel sens lui donner ?
Écoutez, moi j'y vois deux choses que j'aurais noté, peut-être une réponse incomplète. Un, ça montre quelque chose dont on parle assez peu. C'est le rôle de l'outre-mer dans le processus colonial. On a parlé de Félix Eboué, donc qui vraiment prend cette grande décision en 1940 de rejoindre le général de Gaulle, qui est guyanais. Et puis lui qui est antillais, même s'il est né à Panama, et qui finalement est administrateur colonial, est convaincu, et on le verra dans son activité de parlementaire, qu'il faut lutter contre les discriminations raciales notamment, et donc porte d'une certaine façon un certain nombre d'exigences qui sont globales plus que tchadiennes. Et je crois que ce qui va le perdre, et ben c'est comme le dit très cyniquement Jacques Foccart, c'est le fait qu'il n'est pas tchadien. Il est quelqu'un qui a vécu au Tchad, il est un administrateur colonial, il est donc lié à cette histoire de la colonisation, et dans un grand moment nationaliste qui est aussi un moment d'autochtonie, on veut rompre avec ça, et on y reviendra sans doute dans la suite. Le caractère de Nathan Balbaï n'est pas quelqu'un qui partage le pouvoir.
Le régime de parti unique est la norme à cette époque dans les États nouvellement indépendants d'Afrique. Était-ce inévitable ?
Écoutez, on peut dire, je crois que oui, ça l'aurait été, mais ça supposait deux choses. Ça supposait d'abord que il y ait eu une vraie expérience démocratique des systèmes parlementaires. Or, cette expérience-là, elle est très brève et elle est très partielle. Il faut se rappeler que Lisette, députée, mais je pense aussi à la Centrafrique avec Boganda, également députée, ne cesse de se battre pour que les lois votées à Paris soient effectivement mises en œuvre dans leur pays, le Tchad et la République centrafricaine, parce que le colonel local n'en veut pas, et que l'administration locale trouve que finalement, tout ce qui se passe à Paris, c'est quand même un peu loin, qu'on les laisse gérer les choses en silence. Donc, d'un côté, si vous voulez, il y a eu une expérience démocratique qui a été brève et qui a été aussi limitée, pour toutes sortes de raisons. Et puis de l'autre, il y a aussi des paradigmes politiques qui, à l'époque, vont être mis en avant, le développement et la nation, qui sont des termes unanimistes, hein, qui ne mettent pas en valeur le débat, la dissension, le fait que ben il faut, on peut avoir des opinions différentes sur les mêmes sujets importants et que il faut une négociation entre nous. Non, il y a quand même cette idée très forte que pour y aller il faut être unis, donc il faut suivre un chef. Et Tombalbaye, hein, on le voit tout de suite après l'indépendance, se sent l'étoffe de ce grand chef que tout le monde devra suivre au risque d'être emprisonné et ou plus d'ailleurs.
Nous allons nous retrouver sur les bords du Tchad, sur les bords du lac Tchad. Les hommes y sont des géants élancés aux joues zébrées de Bala. Lorsque la guerre durait encore, les tirailleurs du Tchad avaient composé un chant à l'adresse du général de Gaulle. Ils lui demandaient s'il pensait que la guerre allait durer encore longtemps.
Exactement. Chant de tirailleurs qu'accueille le général de Gaulle au bord du lac Tchad après la guerre. Après avoir consolidé son pouvoir, François Tombalbaye tombe dans un travers assez classique. Dès 1960, il favorise sa région d'origine. Ailleurs, les frustrations grandissent. Le sud du Tchad est surnommé le Tchad utile par les colonisateurs. Il fait l'objet de toutes les attentions. C'est là que se trouvent les plantations de coton. Écoles, dispensaires, projets économiques fleurissent. Dans le Nord, on tarde à voir venir les fruits de l'indépendance. Dès 1965, le mécontentement gagne les populations du Nord et de l'Est du pays. Les paysans se révoltent contre les impôts dans la région orientale. Ils s'en prennent aux représentants du pouvoir central qui sont tués dans des affrontements. L'armée intervient en représailles. La répression fait des centaines de morts. L'engrenage, révolte, répression, résistance se met en branle inexorablement. L'année suivante, un front de libération nationale du Tchad, appelé le Frolina, voit le jour. Son fondateur est Ibrahim Abacha, un homme politique aux idées marxistes. Mais Abacha trouve la mort dans un affrontement avec l'armée tchadienne en 1968. Il est remplacé par le docteur Abbasidik, un médecin tchadien au parcours impressionnant. Abbasidik s'est engagé en politique après la guerre, aux côtés de Gabriel Lisette et de François Tombalbaye. Il fait un séjour par la case prison pendant la période coloniale, puis part en France avec l'ambition de devenir chirurgien. Marié à une Française, il travaille dans les hôpitaux parisiens avant de partir en Libye. Le médecin tchadien se rapproche du Frolina et en devient le leader en exil à la mort de son fondateur. Son but, le renversement d'un pouvoir autoritaire soutenu par la France. En 1972, Georges Pompidou se rend au Tchad. Abbasidik lui adresse un message sur les ondes de la radio libyenne. Il s'en prend au président français et à ses alliés locaux.
Il y aura bombance chez les hommes du pouvoir en compagnie de leurs invités de masse.
Comme d'habitude, il y aura bombance chez les hommes du pouvoir. Le peuple sera convié à admirer l'appétit glouton et la mine réjouie de ceux qui le gouvernent. Dieu merci, ils se portent bien. Car cette indépendance est la leur. De pauvres hères, les voici rapaces qui se repaissent de la chair et du sang du peuple.
Les voici aujourd'hui rapaces qui se repaissent de la chair et du sang du peuple. Ces attaques s'adressaient il n'y a pas si longtemps aussi bien à la France qu'au gouvernement du Tchad. Et c'est pourquoi Georges Pompidou a fait une mise au point énergique.
Je voulais affirmer ici que la France n'a pas à rougir ni de ce qu'elle a fait, ni de ce qu'elle fait au Tchad.
Un deuxième foyer de rébellion voit le jour au Tibesti, dans le nord-ouest du pays. Le Tibesti est une vaste région montagneuse. Les sommets dépassent les 3000 mètres, une zone aride, inhospitalière. Elle est peuplée par les Toubous, un peuple nomade. Ceux-ci protestent contre une politique gouvernementale de sédentarisation imposée par des cadres venus du Sud. En 1968, les troubles du Nord et de l'Est, séparés par des centaines de kilomètres de désert, ont pris une ampleur telle que l'armée de Tom Balbaye n'y suffit pas. Le président tchadien demande une intervention militaire française. Ce sera la première d'une longue série. En effet, à l'heure des indépendances, la plupart des nouveaux États avaient signé des accords de défense avec la France. Certains de ces accords contenaient des clauses secrètes, prévoyant la possibilité pour l'armée française d'intervenir au secours des pouvoirs africains. Jacques Foccart, le monsieur Afrique du général de Gaulle, précisera que plusieurs chefs d'État africains, dont François Tom Balbaye, avaient même signé des demandes d'intervention non datées, gardées à Paris, au cas où. Une sorte d'assurance-vie anti-coup d'État qui n'a pas empêché les militaires de faire irruption dans la vie politique du continent dans les années 60 comme aujourd'hui. En France, c'est l'été 68. Les événements de mai sont terminés. Mais la pause est de courte durée. Le général de Gaulle est confronté à la demande d'intervention tchadienne. Les parachutistes sont envoyés au Tchad pour aider l'armée de Tom Balbaye à rétablir l'ordre dans le Nord. Ensuite, dit-il lors d'une réunion,
nous nous en irons. Il ne saurait être question de nous engluer, mais nous ne pouvons pas ne pas intervenir.
De Gaulle, rappelle Jacques Foccart,
pour De Gaulle, le Tchad est un pan de mur de notre édifice. C'est un pan de mur vermoulu, mais il doit rester debout.
Dans un discours récemment,
Tom Balbaye s'explique sur son appel à la France, ORTF 1969.
Admis que des erreurs avaient été commises par votre gouvernement. Quelles sont ces erreurs ?
Des erreurs, il faut les reconnaître, des erreurs, n'est-ce pas ? Dès les premiers jours de notre indépendance, et les éléments appelés à relever, n'est-ce pas, les administrateurs français n'étaient pas suffisamment préparés, n'est-ce pas, à ce genre de choses.
Vous voulez dire que, par exemple, les gens qui étaient mis en place dans le pays se coupaient de la population, n'avaient pas la confiance.
Exactement, oui.
Est-ce que vous ne pensez pas que ces erreurs ont contribué à encourager la rébellion ?
Un peu. Nous qui possédons, n'est-ce pas, la clé de ce problème, nous pensons que nous avons affaire à des bandes, des courants fanatiques, essayent d'exploiter la situation sur le plan religieux.
Vous voulez dire l'opposition entre chrétiens et musulmans, par exemple?
Ah oui, exactement.
On a dit effectivement qu'au Tchad, une partie de la population étant musulmane, vous-même étant chrétien, vous favorisiez les chrétiens. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Pour moi, je ne favorise personne.
Mais rien ne se passe comme espéré, aussi bien Tom Balbaye que la France. La situation ne cesse de se dégrader. Lors de la démission de De Gaulle en 1969, le dossier tchadien est toujours brûlant et passe à son successeur, Georges Pompidou. Le nouveau chef de l'État maintient la politique décidée par son prédécesseur. Il rentre dans l'engrenage, malgré les fortes réticences d'une partie de son gouvernement. Mais Pompidou reprend le jugement du général de Gaulle, qui avait estimé avant son départ, il n'y a pas de solution de rechange à Tom Balbaye. De Gaulle craint que la chute de Tom Balbaye n'entraîne la division du Tchad en deux ou plusieurs morceaux. Il pense que les soviétiques pourraient encourager ce morcellement. La guerre froide n'est jamais loin. Et Pompidou garde la même approche. Retour au Tchad. L'intervention militaire française s'inscrit donc dans la durée. La mission de réforme de l'armée tchadienne tarde à produire des résultats. La tchadisation de la guerre, c'est-à-dire le départ des Français, ne se produit pas. Tom Balbaye, affirme Foccart dans son livre d'entretien,
se montre incapable de prendre des mesures politiques efficaces.
En particulier pour apaiser les tensions nord-sud au sein de la population. Le président tchadien s'appuie de plus en plus sur des hommes de son groupe ethnique sudiste.
Général Cortadelas, j'aimerais que vous me définissiez le type de guerre que vous...
Nous sommes en 1970. Sur le terrain, le chef de la force française, le général Édouard Cortadelas, tient à la télévision française un discours qui rappelle les temps de la guerre d'Algérie.
Disons d'abord que ce n'est pas une guerre, ce sont des opérations de maintien de l'ordre. Nous les fatiguons, nous les harcelons, beaucoup plus que nous ne combattons.
À quoi ça ressemble un rebelle, ces gens que vous pourchassez ?
Eh bien, il ne ressemble à rien d'autre qu'aux bandits qui ont toujours existé dans ce pays. Ce pays a été dans le Nord, qui est un pays nomade, un pays de razzia, de djish, qui a toujours existé. Les gens se sont toujours battus entre tribus, se sont toujours volés des bœufs. Et dans le Sud, ça a toujours existé également. Et en particulier, il y a des coutumes dans les tribus qui veulent en définitive qu'un homme ne soit pas un homme, qu'il ne puisse pas se marier comme il faut, tant qu'il n'a pas apporté un certain nombre de bœufs volés. On n'en est pas au scalp des Indiens, mais je crois que dans certaines tribus, il est également bien vu de pouvoir ramener la tête ou les oreilles de quelques... Toutes ces choses-là s'atténuent, bien sûr, mais il y a un vieux fond qui reste et... Le banditisme qui a toujours existé à l'état sporadique, même du temps de la colonisation, nous ne l'avons jamais réduit. Disons que c'est actuellement une forte recrudescence.
Les Français espèrent une inversion de la politique de Tombalbaye de centralisation extrême. Ils réclament plus de pouvoir pour les chefs locaux. Mais ils vont trop loin. Ils demandent le remplacement d'administrateurs tchadiens par des fonctionnaires français. Tombalbaye est furieux. Il demande le départ du chef de la mission de réforme administrative. Les relations entre les deux pays tanguent. Nouvelle phase, nouvelle époque. Tombalbaye prend ses distances vis-à-vis de la France. Il lance une vague dite d'authenticité, une africanisation des noms et des symboles. François Tombalbaye change son prénom en Ngarta. Fort Lamy, la capitale, devient N'Djamena. Le costume-cravate cède la place à l'abakos, popularisé par Mobutu, le dictateur du Zaïre, l'ancien Congo belge. L'abakos, qui signifie « abat le costard », est une version africaine du col Mao qui se porte sans cravate. Reportage de l'ORTF en 1974.
Il n'y a pas encore longtemps, cette ville s'appelait Fort Lamy. Son nom est toujours inscrit sur toutes les cartes et il évoque la conquête d'une partie de l'Afrique par la France. Mais aujourd'hui, il ne faut plus dire Fort Lamy, mais N'Djamena. François Tombalbaye, qui a d'ailleurs africanisé son nom puisqu'il s'appelle désormais Ngarta Tombalbaye, est l'un des chefs historiques de l'Afrique indépendante.
C'est dans ce contexte particulier que se déroule l'affaire Clostre, une prise d'otage qui se transforme en affaire d'État que nous évoquions au début du récit. Nous retrouvons Roland Marchal, spécialiste des conflits en Afrique. Cette intervention militaire française décidée en 1968 est-elle légitime ? Entre-t-elle vraiment dans le cadre des accords de défense ou s'agit-il d'une affaire intérieure tchadienne ?
Alors, elle est très certainement légale puisqu'elle s'appuie sur les accords de défense signés en 1960. Vous mentionniez l'expression de Jacques Foccart à ce sujet. Je crois que ce qui est important, c'est de revenir, c'est de se poser le problème de pourquoi le général de Gaulle intervient. Et je crois que peut-être, contrairement à une idée simple qui serait simplement le souvenir du Tchad basculant du côté de Londres en 1940, le général de Gaulle fait une véritable évaluation géopolitique, à la fois sur le rôle de l'Union soviétique, mais aussi sur le rôle d'Israël. On est en 1968. Général de Gaulle a un certain nombre de méfiances vis-à-vis de l'État d'Israël. Il voit des conflits au Biafra, au Sud-Soudan, où les Israéliens jouent un rôle important. Et d'une certaine façon, il n'entend pas être dépossédé de la gestion de ce dossier par une autre puissance telle que celle-là. Vous avez, je crois, aussi derrière ça une interrogation et une inquiétude sur le fait que les troubles qui sont alors, je dirais, au nord et au centre, à l'est, mais fondamentalement au centre, parce que c'est encore une époque où le Tchad n'est pas divisé formellement entre un nord et un sud. Ça viendra plus tard avec Abré en 1979. Et l'évaluation du général de Gaulle est très pessimiste. C'est-à-dire que les renseignements qu'il a lui font penser qu'on va vers une extension des troubles dans d'autres parties du pays qui sont notoirement pacifiées, notamment du côté du Kanem. Donc, d'une certaine façon, il faut intervenir pour essayer de limiter les dégâts, et c'est ce qu'il fait en août de 1968.
De Gaulle espérait une intervention courte des Français. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été possible ?
Alors je crois qu'il y a eu, de ce point de vue-là, et c'est intéressant de rappeler, de poser cette question après ce qui s'est passé au Sahel, où l'armée française est intervenue, l'armée française a, sur instruction des politiques, bien évidemment, essayé de recréer une armée malienne qui allait faire, comme au Tchad, libérer le pays de ses bandits et autres djihadistes ou autres rebelles islamiques, hein, puisqu'on parlait beaucoup du rôle du Soudan à l'époque, pour le Tchad. Et puis, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une sous-estimation de plusieurs facteurs. D'abord, la composition de l'armée tchadienne était très majoritairement Sahara, ce qui...
C'est-à-dire sudiste.
Sudiste, ce qui évidemment, et je dirais Sahara parce que ça posait des problèmes, y compris au sud, il y a eu des rébellions au sud, il y a eu des troubles au sud aussi dans cette période-là, avec des gens qui se comportaient en territoire conquis, pas comme des soldats qui se comporteraient normalement avec des concitoyens. Et donc, il y avait une hostilité très forte de la population, une absence de volonté de s'adapter aux nouvelles conditions, de parler avec ces gens qui étaient quand même des concitoyens comme des égaux. On allait en territoire conquis et donc les gens devaient obéir, ils devaient payer beaucoup. Et donc cette prédation-là, elle a eu un effet générique. Et puis, il faut le dire aussi, très rapidement, on va avoir un nouveau paramètre dans ce conflit qui va jouer un rôle très important jusqu'en 1990, c'est la Libye du colonel Kadhafi, qui va complètement transformer, reconfigurer la guérilla, parce que en 1968, la guérilla, elle est essentiellement dans le centre-est. C'est là où vous avez les contingents les plus importants de rebelles. Dans le nord, vous avez effectivement des actions militaires, mais qui sont finalement concernent très peu de population. Mais avec l'intervention de Kadhafi, la factionnalisation du Frelina, donc la décomposition du Frelina en différentes tendances, et puis les rapports de force entre ces tendances vont évoluer parce que l'argent, les armes, les munitions, la formation militaire va contribuer à complètement déséquilibrer les dynamiques qui sont proprement tchadiennes de ce mouvement de libération.
Les relations franco-tchadiennes n'ont jamais été faciles dans les années 70. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui a provoqué cette dégradation ?
Il faut le dire, il y a quand même une grosse inquiétude française, hein, et très perceptible en fait très tôt, hein, dès la prise de pouvoir de Tombal Baye, sur ce qu'est l'homme et ce qu'est son caractère. Tombal Baye, avec les années au pouvoir, devient de plus en plus paranoïaque. Je crois qu'à la fin, au début des années 70, on trouve des officiels français qui parlent réellement d'un président fou. Alors, je n'adhère pas forcément au qualificatif, mais c'est quelqu'un qui est obsédé par sa propre sécurité. Et évidemment, dans un moment où vous voulez pacifier une population qui est révoltée sur le comportement de l'État, vous devez avoir une offre politique. Vous devez proposer, faire des compromis, être généreux avec vos adversaires. Et lui se retrouve en fait totalement à l'inverse de cette attitude, ce qui fait que les Français qui ont quand même mené des guerres contre-révolutionnaires en Algérie, mais aussi au Cameroun, ne l'oublions pas, se rendent compte qu'on va au désastre.
Tchadien, je viens d'apprendre que les trois perturbateurs pour lesquels l'ordre d'arrestation a été lancé cet après-midi à la suite des intentions criminelles dont ils nourrissent depuis de nombreux mois de bouche.
Malabantu wa balanita, tembe ma Araski, décolonisation, sur France Inter.
C'était Mounira Michala, alias la panthère douce de N'Djamena, dans un chant intitulé Anil. Le 21 avril 1974, un groupe de rebelles armés, tout mou, attaque Bardaï, le chef-lieu du Tibesti. C'est une région volcanique très isolée du nord-ouest tchadien, aux confins de la Libye. Conduits par leur chef, Hissène Abré, ils arrivent dans la soirée à la maison d'un médecin allemand qui vit depuis des années dans la Palmeraie. Mais rien ne se passe comme prévu. Deux officiers tchadiens qui dînaient chez le docteur Steven ouvrent le feu et sont abattus. Dans la fusillade, l'épouse du médecin est mortellement atteinte. Les rebelles découvrent également sur place deux Français arrivés trois jours plus tôt, Marc Combes et Françoise Claustre, archéologues au CNRS dont nous avons déjà parlé. La jeune femme travaille sur des gravures rupestres de plusieurs milliers d'années, vestiges d'une époque où cette région aride était verdoyante. Les trois Européens sont emmenés par les rebelles dans les montagnes. Ils deviennent des otages à monnayer. L'affaire Claustre commence. Elle durera près de trois ans, entre mauvaise volonté, erreur de jugement, maladresse et embarras diplomatique. Dans le Nord, la situation est complexe. Si l'armée gouvernementale contrôle les palmeraies comme Bardaï, la rébellion règne sur les montagnes. Le gouvernement tchadien, dont la capitale N'Djamena est à plus de 1000 km de là, a renoncé à rétablir son autorité sur ces montagnes aux aspects lunaires. L'Allemagne réagit très vite. Elle envoie un émissaire et négocie une rançon. Elle obtient en quelques semaines la libération du docteur Steven. La France est plus embarrassée. Ses liens avec le régime du président Tombalbaye l'empêchent d'en faire autant. Négocier un accord avec les rebelles risquerait de le désavouer. Paris ne veut pas déstabiliser Tombalbaye, même si les relations ne sont pas au beau fixe. Mais le moment n'est pas non plus propice à des décisions rapides. La France vit une relative vacance du pouvoir entre la mort du président Georges Pompidou et l'élection qui installe Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée. Arrêtons-nous sur ce groupe rebelle à l'origine de ce coup d'éclat audacieux. Les combattants ont deux dirigeants aux personnalités très différentes. D'un côté, Gukuni Wedei, fils du chef traditionnel des Toubou du Tibesti, taciturne, aux racines locales profondes. De l'autre, Hissène Abré, futur dictateur du Tchad, venu de la plaine. C'est un ancien fonctionnaire colonial dont l'intelligence lui a valu d'aller poursuivre sa formation en France à l'Institut des hautes études d'outre-mer. Il est poussé à rejoindre la rébellion par l'autoritarisme de Tombalbaye. C'est à la demande de Gukuni que Abré rejoint le maquis du Tibesti. Il prend la direction des opérations. Isolé dans les montagnes du Tibesti, ce groupe de rebelles a des moyens et de l'armement limités. L'attaque de Bardaï est destinée à lui donner un nouvel élan et, si possible, à forcer le gouvernement à négocier un règlement politique. À 2h du matin, un message radio parvient dans la capitale. L'alerte est donnée. Premier réflexe des autorités françaises, on envoie des avions de transport et de combat vers le nord du Tchad. Un geste d'une utilité douteuse. Pourtant, lors du premier contact radio, sous surveillance des rebelles, Marc Combes, l'un des otages français, plaide avec insistance.
Prévenez l'ambassade de France de ne pas faire intervenir les forces françaises. Il y va de notre vie.
La première exigence des ravisseurs est la diffusion d'un communiqué de leur part sur la radio allemande et sur France Inter, alors relayée par Radio France Internationale, qu'écoute les rebelles. Les Allemands s'exécuteront, pas les Français. Si l'otage allemand est libéré contre rançon, le silence s'installe côté français. Françoise Claustre est décrite comme une aventurière. Pire encore, elle aurait parti liée avec Hissène Abré, qu'elle aurait connu à Paris. Ce qui est faux. Valéry Giscard d'Estaing rétablira la vérité bien plus tard en disant que Madame Clostre
est une femme irréprochable et dont la mission était bien d'ordre archéologique.
Mais pour l'heure, les jours et les mois passent dans la chaleur étouffante du Tibesti. En 1974, Tombalbaye demande à la France de nommer, pour négocier avec les rebelles, un ancien officier méhariste, ces unités de l'armée coloniale qui sillonnaient le désert en dromadaire. Il s'agit du commandant Pierre Galopin, qui connaît particulièrement bien le nord du Tchad. Mais Galopin a aussi été chef des services de renseignement tchadiens. À ce titre, il n'a pas laissé que des bons souvenirs. On l'accuse de torture, d'exécution sommaire. La médiation de Galopin tourne court, il est à son tour pris en otage et il est exécuté par ses ravisseurs le 4 avril 1975.
Le souvenir d'un cadavre pèse de nouveau sur les relations franco-tchadiennes. Le cadavre du commandant Galopin qui, à l'époque, était allé négocier la libération de François Clostre, otage des rebelles Toubou, dont le chef s'appelait, toujours à l'époque, Hissène Abré. Au micro d'Ulysse Gosset, Christian Millet raconte comment Hissène Abré a donné l'ordre de tuer le commandant Galopin après avoir tenté vainement de l'épargner.
Il a été pendu. Ça s'est passé à côté de Zoui, dans le lit d'un petit oued, le 4 avril 1975, à 10h du matin. Il a été amené devant toute une assemblée de rebelles Toubou, en présence de Hissène Abré qui présidait la réunion. On a passé une corde à la branche d'un arbre, on la lui a passée ensuite autour du cou, et il a été pendu, purement et simplement. Un combattant, proche d'Hissène Abré d'ailleurs, a demandé « Est-ce qu'on peut pas remettre à plus tard ?» Et Hissène Abré a répondu « Non, maintenant c'est fini ».
C'est la première fois qu'un récit aussi précis sur la mort du commandant Galopin au Tchad est porté à la connaissance du public alors que le corps de l'officier français n'a toujours pas été rapatrié.
Lorsque ce témoignage est diffusé en 1984, le président du Tchad s'appelle Hissène Abré et il bénéficie du soutien de la France. Il y a des aspects rocambolesques dans cette affaire. Les journalistes vont et viennent au Tibesti, rencontrent les otages et repartent libres. Thierry Desjardins du Figaro, puis les photographes Raymond Depardon et Marie-Laure de Decker. Depardon revient même une seconde fois en voiture à travers le désert libyen. Il filme la célèbre interview de Françoise Clostre, dont la diffusion aux 20h de TF1 en septembre 1975 provoque un électrochoc national.
J'ai eu des conditions excessivement pénible au début, dans les rochers. J'ai passé 3 mois sous 2 petits palmiers. Et ensuite, mes conditions ont été améliorées. Ça m'a beaucoup aidé, j'avoue. Mes rapports avec les combattants sont bons. Les combattants ont toujours été très corrects. Quand on peut m'apporter du ravitaillement ou quand on peut faire quelque chose pour moi, on le fait.
Malgré l'émotion suscitée par cette interview, Françoise Clost subira encore 16 mois de calvaire avant d'être libérée. Son mari s'est rendu plusieurs fois sur place. Il tente même de livrer des armes aux rebelles en échange de sa femme. Il est finalement lui aussi pris en otage et sera libéré avec elle. Le 31 janvier 1977, Yves Morouzi sur TF1 peut finalement annoncer la bonne nouvelle.
Françoise Clostre a retrouvé ce soir sa mère et sa sœur emmenées à Tripoli par un mystère vin spécial. Dans une brève allocution, M. Valéry Giscard d'Estaing a témoigné sa satisfaction ce soir, d'autant plus que 3 autres Français, enlevés eux aussi en terre africaine, ont été remis en liberté.
Je suis profondément heureux de la libération de nos compatriotes détenus au Tibesti et aussi au Congo, après leurs longues, longues et cruelles épreuves. Après plus de 2 ans et demi d'interruption au sein de la grande famille française.
C'est en effet auprès du colonel Kadhafi, le dirigeant libyen, que la France a finalement trouvé la clé de la libération des otages. L'ambitieux chef de la révolution libyenne est devenu le mentor des rebelles tchadiens. Kadhafi soutient les rebelles de Goukouni Wedei contre son ancien allié Hissène Abré, après leur séparation. Il restera impliqué dans les affaires tchadiennes jusqu'à sa mort en 2011. Avant même l'épilogue de l'affaire Clostre, un premier coup de théâtre se produit à N'Djamena. Le 13 avril 1975, François Tombalbaye est assassiné par sa propre armée, ainsi que sa femme et leur entourage. Un coup d'état militaire provoqué par un mécontentement dans l'armée à la suite de purges successives ordonnées par le président. La méfiance s'était installée. La France décide de laisser faire le coup d'État. Ordre est donné par Paris aux forces françaises stationnées sur place de ne pas intervenir. Comme si on n'était pas si mécontent à Paris d'être débarrassé de Tombalbaye. D'ailleurs, le porte-parole des putschistes prend soin de ne pas remettre en cause les engagements internationaux du Tchad, comprenez avec la France.
Les officiers des forces armées tchadiennes décident, premièrement, de suspendre la constitution. Deuxièmement, supprimer tout parti politique au Tchad. Troisièmement, dissoudre le conseil exécutif, l'Assemblée nationale, le gouvernement et tout autre organe politique issu de la Constitution. Quatrièmement, maintenir tous les engagements et accords internationaux existants entre le Tchad et les pays frères et amis. Vive la République, vive les forces armées tchadiennes.
C'est un général, Félix Maloum, qui récupère finalement le pouvoir. Lui aussi, originaire du Sud, il sort de prison pour s'installer au pouvoir. Il se retrouve très vite en difficulté face aux rebelles de Goukouni Wedei, renforcés par le soutien libyen. Il doit, à son tour, faire appel à la France pour sauver son régime. Valéry Giscard d'Estaing accepte, sous pression des autres chefs d'État africains, effrayé par l'avancée de Kadhafi. En 1978, il déclenche l'opération Taco, qui parvient à bloquer l'avancée rebelle. Mais Maloum doit quitter le pouvoir en 1979, lâché par la France, au profit d'Issenabré, le ravisseur de Françoise Clostre. Il n'y a pas d'état d'âme dans ses rapports de pouvoir, la raison d'état l'emporte sur toute autre considération. Maloum meurt 30 ans plus tard, en exil en France. Il aura été le dernier dirigeant tchadien originaire du Sud. Depuis 1968, et la première intervention qui ne devait pas durer, l'armée française a été plus souvent présente qu'absente au Tchad, afin de préserver des positions acquises et une influence régionale. Mais avec quel résultat ? Le pays n'a connu que de brefs moments de paix, entre des périodes de guerre. N'Djamena a été ravagée par une guerre civile urbaine, puis reconstruite. Goukouni Wedei s'est retrouvé au pouvoir à N'Djamena, à la tête d'un gouvernement d'union nationale. Mais il en sera délogé par Issenabré, son ancien allié. Devenu un implacable tyran, Issenabré sera renversé par une autre rébellion, dirigée par Idriss Déby. Lui aussi trouvera la mort en combattant d'autres rebelles encore. Et c'est aujourd'hui son propre fils qui dirige ce pays de toutes les guerres. Le général de Gaulle avait approuvé la première intervention française en 1968 à la demande de François Tombalbaye. Emmanuel Macron était à N'Djamena en 2021, aux funérailles d'Idriss Déby. Il apporte son soutien au fils d'Idriss Déby, promu président. Nous sommes avec Roland Marchal, spécialiste de l'Afrique. Quel rôle l'affaire Clostre a-t-elle joué dans la chute du président Tombalbaye ?
Pas très importante. En fait, l'affaire Clostre jouera un rôle important dans la dégradation des relations entre Paris et le général Maloum, donc celui qui vient après. Par contre, disons, ce qui se passait avec Tombalbaye, c'est les dernières années de son régime sont des années de terreur. Les gens qui ont vécu ça font des comparaisons avec Haïti sous Duvalier. C'est plutôt le culte de l'authenticité, le culte Yondo. C'est surtout une arme hein, de contrôle social, de répression, d'humiliation des cadres de l'État. La politique intérieure de Tombalbaï est un peu du grand n'importe quoi. Il y a, si vous voulez, un climat qui fait que son élimination de la scène politique tchadienne est plutôt un soulagement pour les autorités françaises.
Est-ce que c'est ce climat qui explique une fin aussi brutale avec l'assassinat de sa famille et de son entourage? Est-ce qu'il avait vraiment suscité autant de
oui,
haine?
Oui, je crois qu'il faut le dire. Hein, l'histoire permet, la distance permet de revoir cette période avec un peu d'objectivité. Bon, c'était quand même un régime qui était devenu à la fois extrêmement policier, où l'arbitraire a été cultivé. C'est intéressant d'ailleurs de regarder cette période-là et de penser à ce que sera le régime Habré plus tard, hein, puisque Habré va sans doute réprimer très sauvagement hein, la population, faire arrêter massivement les opposants ou les dix opposants. Hein, il y aura sans doute plus de 40 000 victimes de Habré. C'est pour ça qu'il sera jugé par un tribunal spécial. Et je crois que bon, on est rentré là dans une période de glaciation politique. Et d'une certaine façon, l'arrivée au pouvoir d'Idriss Déby en 1990 et ça traduit un peu un espèce de renouveau. Les gens veulent espérer que ça va être différent. Et ça l'est effectivement. Ça sera différent. Un autoritarisme qui prendra des formes très différentes, mais au début, vous avez au moins pendant quelques mois, je crois quelques années, l'idée que enfin le Tchad va pouvoir renaître de ses cendres et aller de l'avant.
Et pourtant, le Tchad ne semble pas parvenir à sortir de ce cycle de rébellions armées. Comment, selon vous, peut-il y mettre fin ?
Écoutez, c'est une question très compliquée. Je crois qu'il y a surtout posé à un non-tchadien. Je crois que la première chose qu'on doit dire, c'est que le Tchad, c'est pas une armée. C'est aussi un peuple et qu'on aimerait bien, à Paris et ailleurs, qu'on s'intéresse un peu plus à la population tchadienne et un peu moins à son armée, ce qui permettrait peut-être d'avancer et de pousser à des réformes. Je crois l'autre chose qui est très compliquée au Tchad, c'est que vous avez eu une décomposition du tissu social, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont dans l'extrême nord du pays, qui ont un statut extrêmement privilégié eu égard au reste. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont riches, mais ça veut dire qu'ils ont un rapport à l'État extrêmement symbiotique et qu'une très grande partie de la population se sent complètement marginalisée. Donc il faudrait travailler à réduire ces distances et le faire dans une région qui reste quand même extrêmement tumultueuse. On parlera pas du Nigeria avec ce qui se passe autour du lac Tchad, mais on peut parler quand même de ce qui se continue à se passer au Darfour en dépit de tous les grands discours tenus dans les années 2000 par certains de nos ministres sur le fait qu'on allait régler ce problème. Et puis, évidemment, la Centrafrique qui, hier et aujourd'hui, reste un État quand même très problématique dans la région.
Donc, tous les voisins du Tchad. Merci Roland Marchal. Décolonisation, une émission de France Inter. Chargée de programme, Fanny Leroy. Documentation, Anne-Lise Signoret, Ingrid Lecointe, Pierre Plantin. Avec la voix de Philippe Pierrard. À la prise de son, Florian Dorimini. Au mixage, Guillaume Ledu. À la réalisation, Hélène Bizio. Toi-même, tu t'es massacré.
Enfant du Tchad, tu as trop souffert.